Une nomination qui fait vivement réagir. L'UC et le RDO ont décidé de placer Christian Théin à la présidence du FLNKS. L'UPM et le PALIKA ne participeraient pas à ce congrès du Front n'entérinent pas ces motions. Les partisans de la France, eux, parlent d'une funeste provocation et d'un point de non-retour. Un complice présumé de Roquemitant dit Banane arrêté, âgé de 31 ans. Il a reconnu 3 vols de voitures avec violence et armes en mai et juin. Très défavorablement connu de la justice, il est en état de récidive légale. L'actualité politique nationale, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand reçus la nuit prochaine à l'Élysée. Il s'agit de 2 prétendants à Matignon. Le président devrait nommer le prochain Premier ministre sous 48 heures selon son entourage. Il recevra aussi ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le sport est malheureusement pas de podium pour les Calédoniens aux Jeux Paralympiques la nuit dernière. Pierre Fairbanks s'est classé 6e de la finale du 400 mètres. Félicien Siapo a quant à lui terminé 4e du 100 mètres. La France qui compte 7 nouvelles médailles, dont 3 en or. Et puis les sports mécaniques en Formule 1. Charles Leclerc s'impose à Monza. Le pilote Ferrari fait gagner la Scuderia sur ses terres. La météo en Nouvelle-Calédonie, sur l'ouest, un franc soleil domine. Quelques nuages inoffensifs circulent sur les îles et la pointe nord. Les températures maximales restent chaudes pour la saison de 27 à 29 degrés, voire localement 30 à 31 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité politique sur le territoire.
Oui, le 43e congrès du FLNKS a été clôturé hier après-midi. Il était réuni depuis vendredi à la tribu de Pagou à Koumac. Un congrès extraordinaire qui se déroulait en l'absence du PALIKA et de l'UPM et dont les motions ne devraient donc pas être validées. La principale des décisions qui a des allures de provocation, c'est la nomination de Christian Théin comme président du FLNKS. Une désignation acceptée par la majorité, mais elle n'engage que les mouvements présents sur place. Elle a été saluée dans son discours de clôture par Aloisio Sacco, le président du RDO en charge de l'animation, qui a demandé pardon aux jeunes qui s'étaient mobilisés sur le terrain.
Aujourd'hui, grâce à vous, je vous remercie et je vous demande de vous remercier, nous tous, pour la décision que nous avons prise de mettre enfin un chef à la tête du FLNKS. Physiquement, il est isolé, mais son image, la parole qu'elle a portée dans la mobilisation et dans notre esprit et dans notre cœur. Oui, il est présent parmi nous. Nourrissons-nous de ce que nous avons appris pendant toute cette période de mobilisation. Cet élan que Bichou avait lancé, cette dynamique, il nous faut rester groupés, unis dans cette dynamique pour consolider cette trajectoire qui doit nous mener vers la souveraineté pleine et entière de Kanaky.
Et à l'issue de ce congrès, Laurie Oumouni, la secrétaire générale du RDO, parlait d'un congrès historique puisque le FLNKS n'avait plus de président depuis 22 ans.
C'est un congrès assez historique, hein, j'ai envie de dire, puisque on a acté quand même des motions qui sont fortes, notamment avec la nomination d'un président du FLNKS. Donc ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de président, comme Monsieur Sacco a pu le dire là dans le discours de clôture. C'est historique, c'est la première fois depuis 20 ans qu'on n'a pas eu de chef de file. Ça a toujours été une demande et malheureusement on n'a jamais réussi à se mettre d'accord pour positionner un président. Donc aujourd'hui, il faut prendre acte de ça, qu'on a positionné Monsieur Christian comme président du FLNKS.
Et parmi les autres motions adoptées par ce 43e congrès, la demande de libération des militants indépendantistes interpellés après le 13 mai et l'intégration de la CCAT dans les instances du FLNKS.
Le 43e congrès a demandé effectivement que nos prisonniers soient considérés comme des prisonniers politiques. Donc ça a été acté. Nous avons également reconnu la CCAT au même titre que les comités de lutte comme étant des outils de terrain, de mobilisation sur le terrain pour justement accompagner les négociations qui pourraient se faire sur la trajectoire et notamment sur l'objectif à atteindre, l'indépendance pleine et entière de la Kanaky.
Et malgré l'absence du PALIKA et de l'UPM, Laurie Oumouni affirme qu'il n'y a pas de rupture au sein du FLNKS.
Ce choix, cette décision de nommer Christian Théin en qualité de président du FLNKS, d'une part, effectivement, c'est salué, et d'autre part, effectivement, la réaction est un peu plus mitigée. Mais en tous les cas, de toute façon, c'est vrai que nos camarades nous avaient déjà prévenu qu'ils seraient absents de ce congrès. Ils s'étaient même excusés. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fracture au sein du FLNKS. Ça veut simplement dire que pour ce rendez-vous, c'est un rendez-vous manqué. Mais ils n'ont pas choisi de sortir du FLNKS. Ils ont choisi de se dire « faites ce congrès, Ce congrès est important pour la suite à venir et pourra se retrouver après, tout simplement parce que c'est aussi ça la richesse du FLNKS. C'est malgré les divergences d'opinion, même les divergences de vision, on arrive toujours à pouvoir palabrer, échanger, discuter pour effectivement qu'on puisse ensemble trouver un consensus, trouver une même ligne politique pour nous permettre d'atteindre notre objectif.
Des propos recueillis à Koumak par Kelinda Boikou. J'ajoute que parmi les personnalités présentes à ce congrès, on peut citer le président de l'UC, Daniel Goa, mais aussi les deux parlementaires, le député Emmanuel Tchibaou et le sénateur Robert Rowy, le président du CESE, Jean-Louis d'Angleberme, ou encore les maires UC de Ponérioin, de Wailou, de Poum, Pouébo, Koné et Marais, sans oublier Marie-Pierre Goyetch pour le Parti travailliste et Mélanie Attapot pour l'USTKE. On rappelle que dès vendredi, le Palika a fait savoir dans un communiqué que dans la mesure où deux des quatre composantes seront absentes, ce rassemblement ne peut pas être un congrès du FLNKS et que ce qu'il en ressortira n'engagera en aucun cas le Palika. Et l'UPM non plus ne se reconnaît pas dans ses décisions, comme le disait hier soir Victor Tutugoro, son président.
Évidemment, ça ne vous aurait pas échappé que j'indique qu'évidemment l'UPM n'est pas d'accord. On ne se reconnaît pas dans les décisions qui ont été prises. Et donc, nous estimons que ces décisions-là, ça ne s'applique pas à nous. Ce n'est pas faute d'avoir demandé d'organiser les conditions nécessaires pour que ce congrès puisse se tenir dans les meilleures conditions. Il n'en a été rien. Aujourd'hui, on se retrouve avec, à la tête du FLNKS, quelqu'un qui est responsable de la CCAT, responsable de tout ce qui s'est passé depuis le 13 mai, toutes les exactions, toutes les destructions, toutes les incendies, de l'économie qui est aujourd'hui à genoux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter, ce qui fait courir le risque qui se pose aujourd'hui. La stratégie de destruction, la stratégie de l'imposition, oui, elle continue. Ce que nous déplorons, nous qui sommes attachés à la stratégie derrière la poignée de main du 26 juin, ce que nous redoutons aujourd'hui, c'est qu'on aille droit dans un non-retour, puisque une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui. Quand je dis un non-retour, c'est dans le fonctionnement même et de l'existence même du FLNKS, oui.
La validité de ce congrès extraordinaire et des décisions qu'il aura prises seront donc forcément remises en cause. En attendant, la nomination de Christian Théin suscite des réactions d'indignation chez les partisans de la France. Les loyalistes et le Rassemblement estiment que le FLNKS, absorbé par la CCAT, n'est plus un interlocuteur légitime, Michael Juneski.
Les loyalistes et le Rassemblement parlent d'une funeste provocation qui constitue un point de non-retour. Ils estiment qu'avec la nomination de Christian Théin comme président, les indépendantistes radicaux marquent définitivement le FLNKS du sceau, je cite, de l'infamie politique, et que cette nomination est une insulte à tous les Calédoniens qui ont souffert directement ou indirectement des exactions passées et pilotées par la CCAT qu'ils dirigent. C'est aussi, écrivent-ils, un immense affront pour ceux qui, dans le camp indépendantiste, s'étaient courageusement affichés contre ce projet politique extrémiste. Les loyalistes et le Rassemblement qui appellent toutes les composantes politiques calédoniennes, raisonnables, démocratiques et de bonne foi, non indépendantistes ou non, à se réunir rapidement. Réaction aussi sur sa page Facebook de Sonia Baquès, qui se demande si c'est la fin du FLNKS. Elle estime que cette élection rend impossible toute discussion, sincère au nom du Front, avec les deux autres partenaires de l'accord de Nouméa, non-indépendantiste et État. Pour la présidente de la province Sud, la reconstruction demandera un travail de fond avec ceux qui veulent avancer ensemble et pas avec ceux qui ne savent que détruire. Le député Nicolas Metzdorf, enfin, il réunissait les militants de Génération NC samedi matin au Méridien. Il écrit sur sa page Facebook que l'UC et le RDO ont totalement sombré, qu'ils ne sont définitivement plus crédibles et qu'ils n'entrent plus dans le champ démocratique. Il affirme qu'à son niveau, toute collaboration avec des élus de ces partis politiques est désormais impossible et que désormais, un front démocrate à l'échelle du pays est inévitable. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Selon vous, le Palika et l'UPM doivent-ils quitter le FLNKS ou doivent-ils reprendre le contrôle de la coalition indépendantiste? Si vous pensez qu'ils doivent quitter le FLNKS, vous tapez 1. Si vous pensez qu'ils doivent essayer d'en reprendre le contrôle, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 6h, passé de 40 minutes. Après la pause, la suite de l'actualité sur le territoire et nous reviendrons notamment sur l'agression de Virginie Ruffnac et de Laura Vendégou à l'île des Pins.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous recherchez une mutuelle complémentaire pour vos salariés? La Mutuelle du Nickel est à présent ouverte à tous les secteurs d'activité. Avec votre cotisation, disposez aussi du tiers payant dans nos centres dentaires, d'ophtalmologie, d'audition et d'optique. La Mutuelle du Nickel, renseignements au 26 60 40.
Chris Optique Beretti, agréé tiers payant mutuel, aide médicale, carte senior, paiement en trois fois, votre deuxième paire offerte, test de la vue, accueil, écoute, conseil. Chris Optique Beretti, 60 avenue de la Victoire. La confiance vous va si bien.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et on vous l'annonçait samedi, Virginie Ruffnac et Laura Vendégou ont donc été agressées à l'île des Pins. Les deux élus de la province sud ont déposé plainte. Elles ont été prises à partie alors qu'elles se rendaient à la rencontre de la communauté religieuse et des acteurs du tourisme. Une visite de soutien à la population de l'île des Pins qui n'a pas donc pu aller à son terme. Écoutez Virginie Ruffnac qui était accompagnée de la fille de l'ancien grand chef Hilarion Vendégou. On écoute.
Nous avons été pourchassés, agressés verbalement. On nous a demandé de quitter les lieux. Notre véhicule a été caillassé. Les gendarmes et les officiers de sécurité ont dû nous protéger. Des pick-up avec des jeunes cagoulés nous ont pourchassés et nous ont fait partir. Les gendarmes ont dû riposter car manifestement il y a eu des cocktails Molotov qui ont été lancés. Aujourd'hui, eh bien, finalement, nous sommes dans l'incapacité d'exercer notre mission, qui est une mission de proximité avec les populations, parce que certains jeunes en ont décidé ainsi et qu'ils sont laissés libres d'agir à l'île des Pins et donc chassent les élus qui s'y rendent.
Une altercation vivement dénoncée, notamment par la présidente de la province sud, Sonia Baquès, qui a réagi sur ses réseaux sociaux. En bref, à la Conception hier, les forces de l'ordre ont été prises à partie par une vingtaine d'émeutiers avec des échanges de tirs et de grenades. Des branchages ont été enflammés, bloquant partiellement la route. Des automobilistes ont aussi été caillassés. Et à Saint-Louis, les forces de l'ordre ont procédé hier à une opération de déblaiement de l'axe routier. L'actualité judiciaire est justement sur le secteur de Saint-Louis. Un complice présumé de Rock Wamitan, dit Banane, a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi. Âgé de 31 ans, il faisait l'objet d'un mandat de recherche pour sa participation à des carjackings à la tribu. Les gendarmes ont déployé un dispositif d'intervention alors que l'individu se trouvait au sein de la tribu et il a été arrêté alors qu'il tentait de prendre la fuite, Michael Juneski.
Placé en garde à vue, il a reconnu 3 carjackings. Le premier, le 31 mai vers 12h45, la bande de voleurs intercepte une voiture qui circule sur la RP1. Le conducteur en a été sorti violemment, puis le mis en cause a pris possession du véhicule et s'en est servi pour déplacer des carcasses de voitures qui étaient sur la route. Le 21 juin vers 16h, le mis en cause circule cette fois en moto, accompagné d'un complice passagers munis d'une barre de fer. Ils ont volé une nouvelle voiture. Et enfin, le 29 juin, vers 9h du matin, l'individu était en compagnie de Rock Wamitan dit Banane, le leader, qui a été touché mortellement par un tir de riposte de la gendarmerie quelques jours plus tard. Ils ont stoppé un véhicule. Banane a tiré plusieurs coups de carabine en l'air à proximité de la victime, qui a reçu un coup de pied de la part du mis en cause. Des voitures qui servaient à des déplacements avant d'être incendiées. Le parquet indique qu'il se trouve en état de récidive, notamment au vu de ses nombreux antécédents judiciaires, notamment pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de délit, puni de 10 ans d'emprisonnement, violences volontaires avec armes, vols aggravés et dégradation de biens par incendie. Le procureur indique que l'auteur présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Et j'ajoute que l'association Citoyens Mondorien organise ce matin une manifestation au Wharf du Vallon d'Or. Le rendez-vous est donné à 7h. Il s'agit du 116e jour de blocage de la route de Saint-Louis.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h44.
L'actualité économique et sociale maintenant, et l'usine de KNS est entrée dans une nouvelle étape puisque la mise en veille à froid a débuté samedi soir, Michael.
Le 31 août était la date butoir, c'est ce qu'avait indiqué la direction de Cognambo-Nickel depuis le retrait de Glencore de l'usine du Nord et l'arrêt progressif des activités sur le site de Vavuto, faute de repreneurs s'étant manifestés dans les 6 mois impartis. Durant les 2 prochains mois, plusieurs opérations vont se succéder, comme nous le détaille Winnie Guillet-Robert, la directrice technique de l'usine de Cognambo-Nickel.
On a besoin de passer par une phase de transition qui sont 2 mois mois sur lesquels nos équipes vont travailler pour justement arrêter dans les meilleures conditions tous nos équipements. Ce n'est pas des installations qu'on peut juste arrêter d'un seul coup. On a besoin en fait d'avoir tout un processus d'accompagnement pour les arrêter. L'idée, c'est de les laisser en condition pour qu'on puisse les redémarrer s'il n'y a jamais repreneur hier. C'est très difficile pour beaucoup d'entre nous, dont moi, c'est mon premier travail. Donc moi, j'ai été embauchée tout de suite après mon école d'ingénieur. Donc c'est sûr, c'est une étape difficile pour tout le monde. Après, on est toujours dans l'idée, il faut qu'elle se passe dans le mieux parce qu'on est toujours dans l'optique. Il faut qu'on puisse redémarrer dans les meilleures conditions si jamais on a un repreneur.
On rappelle que sur les 1200 salariés de KNS qui ont pour la plus grande majorité terminé leur contrat samedi, seuls 200 vont rester sur place pour la phase de mise en veille froide.
En bref, dès aujourd'hui, Lagoon va de nouveau accueillir ses abonnés dans ses deux boutiques à Port-Plaisance et Conay. L'accueil se fera aux horaires habituels du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Le SAV technique est de nouveau disponible, tout comme le standard du lundi au vendredi. Le service technique et le service commercial sont joignables par téléphone au 28 88 88, le 28 88 88. Et avant de refermer cette page d'actualité locale, on va voir de quoi sera faite la semaine qui s'annonce, Mickaël.
Oui, aujourd'hui toujours, ce sera la rentrée de la promotion 2024 de l'école de police de Normandie. C'est également la reprise partielle de la circulation des bus rail. Le réseau était suspendu depuis le 1er juin, mais les conditions de circulation se sont améliorées sur la côte ouest. Jeudi se déroulera le forum des soins palliatifs et des associations de santé sur le site ACH de Nouville. L'occasion de mettre l'accent sur les conséquences de la disparition du tissu associatif de santé du territoire. Ce samedi, l'UNC, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, organise sa traditionnelle journée portes ouvertes sur le campus de Nouville. Les lycéens et leurs familles seront accueillis de 9h à 15h, mais aussi de 8h à 13h à la galerie commerciale Théari de Conay.
Et puis notez ce rendez-vous sur notre antenne, c'est Jean-Luc Faure, le coordonnateur du service national universel, qui sera notre invité ce matin à 7h30. L'occasion de parler avec lui de la prochaine session du SNU qui se déroulera du 7 au 18 octobre au lycée La Pérouse à Nouméa. Ce service s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans. 150 volontaires sont attendus, dont 10 en provenance de Wallis et Futuna. Les inscriptions sont déjà ouvertes et pour en savoir plus, donc rendez-vous tout à l'heure à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. En attendant, il est 6h47. L'actualité politique nationale, ce sera juste après la pause et Emmanuel Macron qui accélère les consultations avant de nommer le futur Premier ministre.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal pur essentiel aux huiles essentielles bio. La solution efficace, naturelle et non irritante qui dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est cliniquement prouvé et adapté aux plus jeunes dès 3 ans. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, on sait Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité politique nationale et le chef de l'État qui consulte toujours, 2 mois après les élections législatives qui ont conduit à la composition d'une Assemblée nationale sans majorité claire. L'objectif, Mickaël Juneski, c'est de trouver un Premier ministre pour pouvoir gouverner.
Oui, le président donne un coup d'accélérateur dans ses entretiens. L'entourage du président de la République laisse entendre que le nom du prochain Premier ministre sera connu dans les 48 heures. L'ancien chef du gouvernement socialiste Bernard Cazeneuve sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron ce soir pour nous. Il fait figure de favori car il pourrait éviter la censure. Les proches de Bernard Cazeneuve indiquent qu'il est un homme d'État, prêt à s'engager pour éviter des difficultés supplémentaires au pays. Toutefois, ils préviennent qu'il n'acceptera le poste que si les conditions d'un fonctionnement institutionnel normal et transparent sont réunies. Et on apprend également ce matin qu'Emmanuel Macron recevra aussi Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, dont le nom a été évoqué pour Matignon. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande seront aussi reçus.
L'actualité en métropole dominée également par un nouveau drame de la route. La petite Camilla, 7 ans, est morte. Elle était plongée dans un coma artificiel depuis jeudi dernier après avoir été fauchée par un motard qui faisait une roue arrière alors qu'elle traversait un passage piéton. L'annonce de sa mort a été faite par son père lors d'un rassemblement en soutien à sa famille à Valoris dans les Alpes-Maritimes. Une centaine de personnes étaient présentes, silencieuses, face à ces mots.
On m'a dit qu'elle n'a pas souffert. le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste pas, pour respect pour elle.
L'auteur présumé des faits, âgé de 19 ans, est sans antécédent avec la justice. Il ne conduisait pas sous l'emprise de l'alcool ou de substances illicites. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il reste donc libre à l'heure actuelle.
Info matin, il est 6h50.
L'actualité à l'étranger, les corps de 6 otages enlevés le 7 octobre dernier par le Hamas ont été retrouvés la nuit dernière. Il se trouvait dans un tunnel dans la région de Rafah au sud de l'enclave palestinienne. Les corps ont été identifiés et rapatriés en Israël. Ariane Ménage, la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv.
Leurs familles ont chacune été prévenues au cours des dernières heures. Parmi ces 6 otages, 5 avaient été enlevés au festival Nova dans le sud d'Israël. Hersh Goldberg-Polin et Dani Rouchalmi, Alexander Loubanov, Uri Danino et Al-Moksa Roussi. La 6e otage, Carmel Gat, avait-elle été enlevée ce jour-là au kibboutz Be'eri. Tous étaient en vie lors de leur enlèvement. Après 11 mois de captivité, leurs corps ont été retrouvés, selon l'armée israélienne, dans un tunnel souterrain. Son porte-parole rend ce matin les premières conclusions de l'enquête sur les circonstances de leur mort.
Selon la première évaluation dont nous disposons, ils ont été brutalement assassinés par des terroristes du Hamas peu de temps avant que nous les atteignions.
L'association qui représente les familles d'otages exprime ce matin son désespoir et sa colère. Un accord était sur la table depuis 2 mois, sans les retards, les sabotages et les prétextes. Ceux dont nous avons appris la mort ce matin seraient certainement encore en vie, a-t-elle réagi dans un communiqué. Selon les autorités israéliennes, 97 personnes sont toujours otages du Hamas à Gaza. La mort d'une trentaine d'entre elles a d'ores et déjà été confirmée.
Israël, où un appel à la grève générale a été lancé aujourd'hui en soutien aux otages. Il est 6h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et évidemment, on fera un point sur les Jeux Paralympiques.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Vous souhaitez un logement à la location ou en accession à la propriété sur le secteur situé entre Boulou-Paris et Tontouta? Le FSH vous donne rendez-vous dans le patio de la mairie de Boulou-Paris les mercredis 28 août et 4 septembre de 9h à 13h pour recenser toutes les demandes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez le 05 10 15 et demandez le pôle accession et financement. Le FSH, c'est bien plus qu'un toit.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Informations, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse rrb@rrb.nc. RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on prend la direction de Paris.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et on commence par les résultats des Calédoniens. Malheureusement, pas de médaille pour Pierre Fairbank sur le 400 mètres fauteuil, Michael Juneski.
À 53 ans, il n'a pu terminer qu'à la 6e place d'une finale très relevée, remportée par le redoutable Thaïlandais Paio. Le natif de Yengen a fini sur un temps de 50 secondes 37 centièmes. Une grande joie tout de même pour Pierre Fairbank, le champion paralympique de Sydney en 2000, double champion du monde en titre, d'avoir atteint ce niveau et encouragé par tout le public du Stade de France. On écoute Pierre Fairbank.
Je suis content d'avoir pu quand même faire ce 400 mètres et vivre ce moment historique avec le public. Déjà dans ma course, il y a le Thaïlandais qui a un an de moins que moi, 52 ans. C'est vrai qu'en handisport, on a tendance à courir un peu plus âgé, mais voilà, c'est tant que le plaisir est là, je reste jeune, je fais plaisir à ceux qui m'encouragent, qui m'aident au quotidien pour performer. Et, voilà. Dommage pour eux, j'ai pas pu faire une médaille.
Pierre Ferbank qui sera encore engagé sur les épreuves du 800 mètres T53. Félicien Siapo disputait quant à lui, à 21 ans, le 100 mètres T44. Il a réussi à terminer au pied du podium, un chrono de 11 secondes 66 centièmes, très proche du vainqueur, le Sud-Africain Mpulelo Mgolo. Une performance qui reste plus qu'encourageante pour la suite de la carrière de Félicien Siapo sur cette distance. On rappelle que ce week-end, Vitolio Cavacava avait terminé 7e de la finale du lancer de javelot. On le retrouvera encore engagé le week-end prochain en finale du lancer de poids.
Bon, Mickaël, il y a tout de même eu des médailles pour la délégation tricolore.
Oui, les Français qui ont décroché 7 nouvelles médailles, dont 3 en or, avec Emeline Pierre sur le 100 mètres nage libre S10, Tanguy de la Forest en tir sportif, 10 mètres carabine à air position couchée mixte SH2, et Marie Patouillet en cyclisme sur piste sur la poursuite individuelle C5, une finale d'ailleurs 100% française face à Heidi Gauguin. Une belle médaille d'argent également pour Gloria Agbegmanion en lancer de poids F20. Notez que la France est actuellement 5e du classement des médailles, pas moins de 24 médailles. La Chine est en tête avec déjà 64 podiums et 29 médailles d'or.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et on passe au football, Mickaël, avec la 3e journée de Ligue 1.
Un choc au sommet, en clôture, au parfum de Coupe d'Europe d'ailleurs. Le PSG sur le terrain de Lille, les deux clubs qui sont en lice, on le rappelle, en Ligue des Champions. À la mi-temps, la rencontre tourne à l'avantage du PSG, bien sûr. 2-0 en faveur des Parisiens grâce à des réalisations signées Vitinha sur pénalty à la 33e minute. Et Barcola en contre 3 minutes plus tard, encore 45 minutes à jouer dans cette rencontre. Les autres résultats du jour, Monaco et Lens se sont quittés sur un nul, un but partout. Nice a battu Angers, 4-1. Le Havre a dominé Auxerre, 3-1. Enfin, Reims s'est imposé sur Rennes, 2-1.
Et puis, on voit le reste de l'actualité sportive sur la scène nationale et internationale, en bref.
Ouais, du tennis, l'US Open, le début des huitièmes de finale. Le Norvégien Casper Ruud fait face en ce moment à l'Américain Taylor Fritz. Chez les féminines, l'Américaine Coco Gauff affronte sa compatriote Emma Navarro pour tenter de rallier les quarts de finale. Toujours aux États-Unis, du golf, la dernière ligne droite dans la finale de la FedEx Cup. Le Français Mathieu Pavon qui occupait hier soir la 17e place du classement, dominé par la Américain Scottie Scheffler. En cyclisme, une victoire espagnole sur la 15e étape de la Vuelta. Pablo Castrillo qui s'est imposé au classement général. L'Australien Ben O'Connor est toujours leader avec seulement 1 minute 3 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic. Et puis en MotoGP cette fois, Marc Marquez a remporté le Grand Prix d'Aragon, toujours en Espagne. C'est sa 60e victoire en carrière, son premier succès depuis 2021. Le Français Juan Zarco a terminé 14e. Fabio Quartararo a dû abandonner après une chute dès le 6e tour.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et on reste donc dans les sports mécaniques avec cette fête pour la Scuderia Ferrari puisque c'est Charles Leclerc qui a triomphé sur le Grand Prix d'Italie, Mickaël.
Une victoire surprise du Monégasque à Monza sur les terres de la Scuderia. La stratégie a été payante avec un seul arrêt en course pour devancer les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris. C'est le deuxième succès en carrière de Charles Leclerc après Monaco cette saison.
C'est des sensations qui sont uniques. Entre Monaco et Monza, c'était vraiment les deux courses qui m'ont fait rêver depuis tout petit. Donc si on avait deux à choisir, je ne pouvais pas rêver mieux. Et surtout avec tous les fans, les tifosi qui en piste, c'est juste exceptionnel.
Lewis Hamilton s'est classé 5e devant Max Verstappen, le leader du classement mondial, en difficulté hein, pour cette deuxième partie de la saison. Les Alpines de Esteban Ocon et Pierre Gasly sont respectivement 14e et 15e.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport côté calédonien avec tout d'abord ce titre de champion de France pour Maxime Chazal en métropole. On parle de tennis, bien sûr.
Oui, pour la 4e fois de sa carrière, le sacre en deuxième série à Blois. À 31 ans, il est en forme actuellement au 390e rang mondial. Il a battu le métropolitain Johann Sébastien Tatlou en finale. Il nous a fait part de sa réaction, Maxime Chazal.
Ça fait toujours plaisir, surtout de gagner un titre. Après, là, c'est la 4e fois que je le gagne. Donc, je suis le seul à avoir gagné 4 fois. Donc, c'est toujours quelque chose voilà, qui fait quand même plaisir, qui donne de la confiance et j'espère que je vais réussir à surfer sur cette confiance-là pour le reste de ma saison, plutôt sur les tournois internationaux. Voilà, vu que je joue toujours le circuit, donc voilà, j'espère surfer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Voilà, après ça enchaîne. C'est quand même cool d'avoir fait une semaine sans défaite. Ça arrive pas très souvent dans une saison. J'essaie de garder ce positif-là.
Maxime Chazal qui est déjà engagé dans un ITF un challenger qui se déroule dans la ville de Séville en Espagne.
Et on termine avec le reste des résultats du week-end.
On est toujours en métropole du cyclisme sur piste. Cet excellent résultat pour Hervé Salin en Coupe de France à venir à Feignoux. Il s'est classé deuxième de la vitesse chez les moins de 19 ans. En Calédonie, il y avait le Yala Trail, près de 800 coureurs hier sur le 15 km, victoire de Steve Juignet. Et chez les filles, en deuxième position, Claire Jacquin, première féminine donc. Et puis j'ajoute qu'on parlera Baltrap ce midi dans le MAC des sports. Comment doit fonctionner la Ligue alors que toutes les compétitions ont été arrêtées, également dans la perspective des échéances régionales, nationales. Nous serons en compagnie de Marion Romagne, le président de la Ligue, qui est aussi responsable de la commission des Jeux du Pacifique au CTOS.
Merci beaucoup Mickaël Juneski. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et c'est avec vous Thierry.
Oui, ce matin sur la façade ouest, le soleil dominera. Ailleurs, il sera parfois contrarié par des passages nuageux en cours de matinée. Sur l'ouest, le vent lui sera faible avec encore des accélérations entre 10 et 15 nœuds dans l'axe de certaines vallées. Puis il s'orientera ensuite au sud autour des 10 nœuds. Sur les autres régions, il sera de secteur est autour des 10 à 15 nœuds et localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord. Cet après-midi, le temps sera sec et bien ensoleillé avec quelques nuages inoffensifs qui circuleront encore sur les Loyautés, le sud-est et la pointe nord. Sur l'ouest, le vent orienté au sud sera compris entre 10 et 15 nœuds. Donc pour cet après-midi, sur les autres régions, il sera est à est-sud-est entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe sud-ouest et Belep jusqu'à la pointe nord-ouest. Les températures pour cet après-midi, les températures maximales, elles restent chaudes pour la saison, chaudes pour la saison bien sûr, 27 à 29 degrés, et localement de 30 à 31 degrés, ce sera sur l'ouest.